Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Jean-Georges Kibogora.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba, Agathe Akawe. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Deux commissaires de la CVR, la commission Vérité et Réconciliation, ont fui le pays depuis la semaine dernière. Noé Clément Nziza et Aloïse Batungwanayo ont échappé d'elle à l'arrestation par les services de la documentation nationale. On fera le point dans ce journal. Et puis la pénurie du carburant fait toujours parler d'elle. Dans la province de Muyinga, les habitants voudraient s'en en procurer à partir de la Tanzanie, mais l'autorité provinciale dit qu'il n'en est pas question. Nous parlerons également du projet visant la reconstruction du marché central de Bujumbura. L'ONG locale Parsem recommande de mettre en place un arsenal juridique et institutionnel solide pour éviter les problèmes qui pourraient naître du système de partenariat public-privé adopté pour la reconstruction de ce marché. Voilà pour le sommet de ce journal. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Insécurité pour commencer ce journal. Encore sans vie, un homme a été retrouvé dans la matinée de ce lundi près du marché de la commune de Gihanga dans la province de Bubanza. Selon les témoins oculaires, aucune blessure n'était visible sur le corps. La police s'est rendue sur les lieux pour constater les faits. La victime a été identifiée comme un travailleur dans le secteur agricole de la commune. La police locale a annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'élucider les circonstances de ce décès. Et puis, deux commissaires de la commission Vérité et Réconciliation Sévère ont fui le pays depuis la semaine dernière. Il s'agit bien du vice-président de cette commission, Noé Clément Nziza, et d'Aloïse Batungwanayo. Nos sources nous disent que le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, avait exigé à l'administrateur général du Service National des Renseignements de les arrêter pour cause de trahison. Jean-Baptiste Villéa nous en dit plus.
Selon nos sources recueillies auprès de certains membres de la commission Vérité Réconciliation Sévère, depuis un certain temps, régnait un climat malsain entre le président de cette commission, Pierre Claver Ndayichariye, et les deux commissaires respectivement, Loïse Batungwanayo et Noé Clément Nziza, jusque-là vice-président de la CVR. Nos sources révèlent que tout a commencé quand le président de l'Assemblée nationale, Gilas Ndabilave, a convoqué dans son bureau les deux commissaires pour les signifier qu'ils sont accusés de trahison et d'espionnage en faveur d'une puissance étrangère. Les a intimé l'ordre de démissionner. Ce n'est pas tout. Le 15 janvier, c'est-à-dire le mois dernier, le président de l'Assemblée nationale a vite sorti une note annonçant la vacance de ses deux postes de commissaire pour tous ceux qui désirent postuler à les remplacements. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a pris le dossier à main, intimé l'ordre au général des forces Habarurema, le patron du Service national des renseignements, de procéder à l'arrestation de ces deux commissaires qui n'étaient plus sur le sol burundais car l'information visant les arrestations avait déjà filtré. Ce qui est étonnant, Loïse Valtonayo était perçu comme une grande figure au sein de la CVR et même au niveau du parti de DFDD. Plus d'un s'attendait à ce qu'il soit nommé en poste plus important dans les futures institutions au lieu d'être poursuivi. Ces derniers temps, en compagnie du secrétaire général du parti de DFDD, Révélien Likuliyo, il avait sillonné les différentes provinces du pays en organisant des conférences, ateliers, formations à l'endroit des différents responsables du parti présidentiel en des signes qui témoignent la confiance qu'il avait au sein du parti présidentiel, le CNDD-FDD.
Merci bien Jean-Baptiste Villéa. En politique, la commission électorale nationale indépendante CENI a présenté ce lundi aux représentants des partis politiques les symboles, les affiches et les cartes qui seront utilisées lors des prochaines élections. Certains représentants des partis politiques présents à cette réunion ont demandé un délai supplémentaire pour pour modifier les symboles qui vont figurer sur les cartes électorales. Prosper Nahuami, président de la CENI, a rejeté la demande, affirmant que le délai pour cette tâche était déjà écoulé, de même que la période prévue pour la désignation des mandataires des partis politiques chargés de superviser la prochaine étape d'affichage des listes électorales. Écoutez-le.
On a échangé sur les maquettes. Les maquettes ont été validées, sauf quelques observations sur la clarté des images. Nous avons accepté de les corriger. Et puis c'était en matière didactique. Sinon, avant de produire définitivement les bulletins de vote qui vont servir le jour des élections, on signe le bon à tirer. Et on ne peut pas signer le bon à tirer si les images ne sont pas très lisibles. Il en est de même pour les procès-verbaux d'établissement des résultats. On s'est donc convenu et on a adopté les maquettes des bulletins de vote et les formulaires d'établissement des résultats F2. L'accréditation des mandataires, en fait, pour certains, il y a une petite confusion. On accrédite les mandataires des partis politiques en fonction d'une activité. La première activité, c'était l'enrôlement des électeurs. L'activité en cours, c'est l'affichage des listes électorales provisoires. La prochaine étape, ce sera la distribution des cartes d'électeurs. Et enfin, ce sera le jour J, jour des élections. À chaque activité, les candidats qui le veulent peuvent faire accréditer leur mandataire politique. Vous voulez les observateurs selon une activité. Alors, l'activité d'accréditation des observateurs pour l'activité d'affichage des listes électorales provisoires est terminée depuis la semaine passée. Au moment où nous parlons, l'activité est en cours, c'est-à-dire les gens qui sont accrédités sont déjà au centre d'affichage. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Celui qui fait accréditer les mandataires, c'est celui qui les a, ou qui le veut et qui le peut.
Inzamba.
Dans la suite de ce journal, la situation de manque de carburant cause toujours problème. Aujourd'hui, les habitants de la province de Muyinga demandent l'autorisation de s'en procurer à partir de la Tanzanie parce qu'il n'y en a pas sur place, mais l'autorité provinciale le refuse, arguant qu'elle ne peut pas permettre de faire la fraude. Les détails dans ce reportage de Daphne Bona.
Ces habitants estiment que la pénurie de carburant qui ne fait que trop durer et constitue un fardeau pour la vie au quotidien de la population en province de Muyinga. Cette préoccupation a été soulevée vendredi dernier au cours d'une réunion de sécurité animée par le gouverneur de province, Jean-Claude Barutwanayo. En participant à cette réunion, a demandé à l'administration et à la police de laisser libre les trafiquants qui font entrer du carburant en moto en provenance de la Tanzanie.
Je ne sais pas s'il faut parler de fraude ou de sacrifice pour la nation. Des conducteurs de moto transportent du carburant, mais ils sont pourchassés par la police. Cela me peine profondément. Je vous demande de solliciter une dérogation pour ces conducteurs, car sans leur activité, certains services essentiels ne pourraient pas fonctionner.
Le gouverneur de province, Jean-Claude Barutwanayo, s'inscrit en faux contre cette demande, arguant que le gouvernement ne peut pas légaliser la fraude, promettant néanmoins que la pénurie de carburant pourra trouver une solution dans les jours à venir.
Nous ne pouvons pas présenter les choses ainsi. Il faut garder confiance. Nous ne devons pas réagir de manière excessive. Et je tiens à vous rassurer. Les Burundais, nous sommes parfois impatients. Dès qu'un problème surgit pendant un ou deux jours, nous avons tendance à le percevoir comme une catastrophe. Mais la situation liée au manque de produits de première nécessité, y compris le carburant, trouvera bientôt une solution. Ce problème prendra fin et le carburant redeviendra disponible.
La pénurie de carburant, qui ne fait que trop durer, a entraîné une montée vertigineuse du prix des biens de première nécessité et celui du ticket de transport.
Dans le domaine de l'économie toujours, le système de partenariat public-privé adopté par le gouvernement du Burundi pour reconstruire le marché central de Bujumbura est un bon système, mais qui comporte des risques qu'il faut absolument éviter, selon une analyse de l'ONG locale Parsem. Cette organisation propose une expertise des spécialistes pour bien réussir dans ce chantier. On écoute Faustin Nkumana, directeur national de la Parsem.
Si on analyse le partenariat public et privé qui régit, ce qui veut reconstruire le marché central et l'État, on voit beaucoup de lacunes. Le cadre juridique institutionnel n'est pas encore bien opérationnel. Le gouvernement n'a pas encore fait une évaluation, si je ne me trompe, une évaluation préliminaire pour voir pour évaluer donc l'éventuel coût de l'infrastructure, qu'est-ce qu'on veut réellement de ce marché central? Les termes du contrat, le coût de l'infrastructure, modalité de remboursement, délai d'exploitation, délai de construction. Tout ça, on voit qu'il y a encore ça de négociation, mais on dit qu'on veut commencer à construire le marché central. Si c'est un monopole dans lequel l'État s'engage, quelle est la capacité de régulation? Pourquoi l'État n'a pas fait jouer la concurrence? Un appel d'offres en bonne et due forme. Est-ce que la capacité de l'entreprise a été bien évaluée, capacité financière, technique, l'expérience? Parce qu'on a vu que les modèles d'offres ont été informés. Je crois que quelque part le gouvernement devrait y aller avec pincette, devrait vraiment y aller avec réserve, jouer à la transparence, même si c'est en Burundi, aussi des Burundais qui veulent s'y engager, il faut qu'il y ait des normes, il y a des normes vraiment fondamentales qui doivent être respectées pour éviter des conflits éventuels. Vous savez, les gouvernements changent. Des fois, quand il n'y a pas un cadre juridique solide et visionnaire, les risques sont élevés et le projet, maintes fois, aboutit à l'échec. Et ça génère plus de conflits plutôt.
L'ONG locale Parsem recommande également d'opérationnaliser le cadre juridique et institutionnel en la matière et de mettre en avant la transparence dans tout ce projet. On écoute encore une fois Faustin Dikoumane.
À travers le document de stratégie nationale de coopération, le gouvernement s'engage à utiliser le partenariat public et privé pour mobiliser des fonds pour le financement des infrastructures. Mais il reconnaît que cela comporte des risques qui, quand ils sont mal gérés, ça provoque l'échec et génère plutôt des conflits entre les parties prenantes. Normalement, le partenariat public et privé est une solution pour plusieurs gouvernements actuellement cherchant à financer les grands équipements, les grandes infrastructures pour le besoin de la population et soutenir le développement économique. Parce que beaucoup d'infrastructures exigent des coûts extrêmement élevés. Donc les avantages du partenariat public et privé sont importants. Mais il convient de bien définir et de respecter le rôle de chaque acteur. Il y a plusieurs modèles d'accords différents, mais qui sont extrêmement complexes et dont la réussite suppose des compétences des deux côtés. La plupart, il y a des cas de monopole et qui exigent la régulation. On peut faire jouer la concurrence, mais dans ce contexte, ça exige une compétence, une expérience très avérée, parce que ça comporte beaucoup de risques juridiques qui doivent être distribués convenablement. Sinon, la réussite devient très mitigée. Mais il y a beaucoup d'expérience dans le monde des cas de réussite, c'est pour cela qu'on devrait s'y référer.
En mode sport, pour boucler ce journal, le club Bumamuru a pris ce dimanche la tête du championnat de football. C'est après avoir battu Ngozi City par 2-0. Aigle Noir, qui occupait cette place, a été surpris par Olympic Star de Muyinga. Score final 2-1. Nous revenons sur les résultats de cette 19e journée, mais également sur la reprise du championnat de football féminin. Le point avec Alexandre Niungeko.
19e journée du championnat national de football. Ce dimanche, Bumamuru a pris la tête du championnat provisoire après son succès à domicile de 2-0 face à Ngozi City, mais aussi à la suite de la défaite de Aigle Noir en déplacement à Muyinga face à Olympic Star. Score final 2-1. Au stade Ngoma do Gitega, Flambeau du Centre a battu Ngozi City par 2-0. Première victoire de Vitalo pour cette phase retour. Les Mauves et Blancs en déplacement sont allés s'imposer sur Messager Ngozi à domicile par 2-1. Kayanza United est venu battre au stade Ornani de Buganda, RLB Merci Pirepan, 1-0. Samedi, Flambeau du Centre en déplacement est venu battre Burundi Sport Dynamique au stade Ornani de Buganda par 3-0. Et vendredi, Royal Vision a battu Interstar par 2-1 à Buganda, tandis que Lukinzo a étrié Mososhuga par un score fleuve de 5-0. Au classement provisoire, Bumamuru est leader avec 44 points, suivi de Aigle Noir avec 42 points. La troisième place revient au Flambeau du Centre avec 37 points. C'est au moment où la lanterne rouge est toujours LLB Amasipiri avec 6 points. Côté féminin, la phase retour du championnat national de féminin Lumitel Women's League a démarré ce week-end. Bonavenir a battu ce dimanche PPV Bouyens par 4-1. Bouja Queen s'est imposé sur Inwarikazi par 3-2. Match nul dans but partout samedi entre Arena Star et Kazoza Keza. Large victoire de 4-2 de la Colombe face à Maïka Les matchs se sont tous déroulés au centre technique d'Ongagara.
Merci Alexandre Niouéko pour toutes ces précisions. Et c'est par là que s'achève ce journal-là. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.